Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite une très bonne fête des expiations. À l'époque de l'Ancien Testament déjà, la Pâque était une cérémonie très personnelle. Chaque foyer, ou si le foyer était trop petit, avec son plus proche voisin, prenait un agneau ou un chevreau et l'immolait entre les deux soirs. Le sang était mis sur les deux poteaux et sur les linteaux de leur demeure, ce sang qui représentait, bien sûr, le sang du Christ. Nous voyons déjà plus tard, à l'époque de Josias, lorsque Josias avec le peuple célébrait la Pâque, qu'il y avait des dizaines de milliers d'agneaux et de chevreaux. C'était pas quelque chose fait en bloc. Les gens pouvaient s'identifier. Ils ont participé directement. Et nous aussi, la Pâque, pour nous, est très individuelle, très personnelle. Nous nous examinons avant la Pâque, nous regardons nos vies, nous voyons là, il y a encore des péchés dans notre vie personnelle. C'est très personnel, très individuel. Et lorsque nous prenons la Pâque, la cérémonie de la Pâque, nous participons donc individuellement, nous prenons un petit peu de pain, nous prenons également un peu de vin, ce vin qui représente le sang du Christ versé pour le pardon de nos péchés. Il y a certaines similitudes entre la Pâque et la fête des expiations. Aujourd'hui, c'est la fête des expiations et j'ai voulu vous montrer les différentes responsabilités qui vont de pair avec ce jour. Il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences donc entre ces deux fêtes. La fête des expiations, c'est en plan physique. Déjà, il y a les deux boucs de la part de tout Israël. La cérémonie est plus générale. Lévitique chapitre 16. Et le verset 5, nous lisons ceci, Lévitique chapitre 16, et le verset 5, le souverain sacrificateur, donc, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. C'était pour tout le monde. Il n'y avait pas un agneau par foyer. C'était quelque chose, il n'y avait pas cette participation individuelle, c'était quelque chose qui était plus global. Déjà, il y avait un taureau expiatoire pour Aaron et pour sa maison. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Et dans Lévitique chapitre 16, nous voyons que la Bible est très explicite. La Bible explique pourquoi le bouc expiatoire était sacrifié. Lévitique chapitre 16 et le verset 15. Verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire. Pourquoi? À cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc, c'est à cause du péché. Il fera de même, toujours verset 16, il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Verset 19. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel, il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc, la Bible est très claire, c'est même répété la raison pour laquelle ce bouc expiatoire était sacrifié. Il y a des différences, donc, entre les expiations et la Pâque, mais ce sont aussi, il y a aussi des similarités, ils ont des thèmes en commun. Ils ont beaucoup en commun puisqu'il s'agit du pardon, il s'agit du sacrifice du Christ. Et on voit que symboliquement, ça voit avec le péché dans les deux cas. Déjà à l'époque, si quelqu'un était impur, il ne pouvait pas prendre la Pâque. La fête des expiations, c'est le fait d'être pardonné pour que nous puissions être un avec Dieu, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'agneau pascal et le bouc expiatoire pour le péché qui, tous les deux, représentaient le Christ immolé. Et les deux fêtes, la fête de la Pâque, ou la Pâque, et la fête des expiations, les deux fêtes se complètent. La fête des expiations va plus loin dans le sens qu'il élargit les responsabilités. La fête des expiations par rapport à la Pâque nous donne davantage, nous donne l'ensemble du tableau. Et les deux fêtes pour les chrétiens ont également des liens, entre guillemets. Avant la Pâque, nous nous examinons, c'est ce que la Bible dit qu'il faut faire. Nous nous examinons, on nous encourage à jeûner pour que nous puissions voir ce que Dieu veut que nous voyons dans nos vies. C'est une période de l'année, par-dessus tout, quand nous nous humilions. Et la fête des expiations, le jeûne est commandé. Le jeûne est commandé, Dieu veut que nous nous humilions pour que nous puissions s'éloigner de l'influence de Satan, de la nature humaine et du monde. Et en attendant que Satan soit lié, qu'il soit éloigné de l'humanité d'une façon permanente, Dieu veut que nous éloignions l'influence de Satan dans nos vies personnel, en se rapprochant de lui à travers le jeûne. Donc, la fête des expiations complète le tableau de pardon. La fête des expiations souligne la réconciliation avec Dieu. Parce que la fête des expiations, ça a à voir avec le fait que l'homme vive en harmonie, puisse vivre en harmonie avec son Dieu, pour qu'il puisse être un avec Dieu. Ça va donc, par rapport à la Pâque, la fête des expiations va plus loin qu'uniquement le pardon des péchés donc représenté par le premier bouc, Jésus-Christ qui donne sa vie pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. Le deuxième bouc est enlevé. Satan est l'instigateur du péché. C'est lui qui est le premier à pécher avant même que l'homme soit créé. Et pour qu'il y ait un monde de paix, pour que le millénium puisse s'effectuer sur cette terre, il ne faut pas qu'il y ait un adversaire. Satan aura rempli son rôle à ce moment-là, et Dieu va montrer à l'humanité sa voie sans l'influence de Satan. L'histoire de l'humanité commence dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, nous avons les deux arbres qui sont décrits dans la Bible. C'est donc le commencement de l'histoire de l'homme, Genèse chapitre 3 et le verset 15. Parce que dès le début, dans le plan de Dieu, il y a des aspects dans Genèse chapitre 3 que nous trouvons et que nous retrouvons avec la fête des expiations. Regardons Genèse chapitre 3 verset 15, cette prophétie qui a à voir avec le plan de Dieu. Genèse chapitre 3 et le verset 15. On va commencer peut-être avec le verset 14. L'Éternel dit au serpent, une fois qu'Adam et Ève avaient péché, L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ensuite, la suite dans les plans dans le plan de Dieu, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est donc le futur qui est écrit ici. Tu lui blesseras la tête, effectivement, ça fait allusion à la crucifixion de Christ, mais le Christ est revenu à la vie, Dieu l'a ressuscité. Il a donné sa vie pour nous, pour que nos péchés puissent être pardonnés. C'est ce qu'on trouve dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, une victime expiatoire pour nos péchés, pour le péché du monde. Et puis c'est aussi indiqué dans le verset 15, celle-ci t'écrasera, donc le Christ, t'écrasera la tête. T'écrasera la tête, c'est-à-dire ça fait allusion au fait que la puissance de Satan sera anéantie. Après les 1000 ans, Satan sera jeté dans le temps de feu. Donc, Genèse chapitre 3 est une prophétie de comment Jésus-Christ va vaincre Satan. Comment il va vaincre Satan? Déjà, quand le Christ revient, nous voyons dans un premier temps le sort de Satan dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 1. C'est l'écriture avec laquelle nous sommes familiers, Apocalypse chapitre 20 et le verset 1. Apocalypse 20 et le verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma cela l'entrée au-dessous de lui afin qu'il ne séduisait plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Satan, pendant 1000 ans, ne peut pas nuire à l'humanité. Et donc, pour revenir à Genèse chapitre 3, le jardin d'Éden, il y avait dans le jardin d'Éden, avant que l'homme a péché, il y avait de l'harmonie, de la proximité, et il y avait la paix. Et les expiations s'avoient avec une réconciliation de l'homme avec Dieu, réconcilier, remettre en état, rétablir quelque chose qui existait auparavant. Genèse chapitre 2, verset 17. Genèse chapitre 2, et le verset 17, juste avant donc que l'homme a péché, nous voyons l'ambiance, nous voyons cette intimité, cette proximité qui existait. Genèse chapitre 2, et le verset 17, Dieu parle directement à l'homme, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est une conversation directe. Dieu parle directement à l'homme. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait l'homme. Et là, on voit que Dieu délègue cette responsabilité à l'homme. Il y a une intimité, et même quand Dieu, après que Adam et Ève ont péché, même quand Dieu a parlé, le rapproche était une rapproche directe. Il parlait toujours à l'homme. Tout était avant le péché de l'homme, tout était paix et l'harmonie. Il y avait de bonnes relations entre Dieu et l'homme. Suite au péché d'Adam et Ève, il y a eu de l'éloignement, de la séparation, et bien sûr, parce qu'il y avait péché, il y avait la souffrance. parce que le péché est entré dans le monde des hommes. Et c'est pour ça qu'il fallait une solution. Il fallait une solution pour retrouver la relation que Dieu a voulu dès le début, que Dieu a prévue, pour retrouver cette relation de proximité, d'intimité avec Dieu. Romains chapitre 5 et le verset 9. Romains chapitre 5 et le verset 9, nous lisons ceci. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions, ça décrit notre état avant notre conversion, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions effectivement ennemis avec Dieu. Nous n'obéissions pas à Dieu et nous n'avons pas cette relation d'intimité avec Dieu auparavant. Alors, qui était responsable en premier pour interrompre ce contact? Qui a séduit l'homme? Qui a tenté l'homme? Bien sûr, c'était Satan. Et nous trouvons à travers l'histoire la même chose, le même procédé à travers l'histoire où Satan séduit l'homme, Satan fait du mal à l'homme. Genèse chapitre 3 verset 1 nous décrit la nature de Satan. Genèse chapitre 3 et le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. L'Ostewald et le Martin traduisent cette phrase par le plus fin. Le plus fin, le plus rusé. Éphésiens 6 parle des ruses du diable. Et Satan a influencé l'humanité et celle-ci est devenue l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Quand nous examinons plus attentivement Lévitique chapitre 16, bien sûr, qui a à voir avec la fête des expiations, nous trouvons deux mots qui ressortent vraiment à travers ce chapitre, qui sont soulignés. Nous trouvons d'abord le mot « kafar » avec lequel nous sommes plus familiers, qui littéralement veut dire « couvrir ». Qui peut être également traduit par « pardonner ». C'est ce que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 21, verset 8. Je m'y rapporte pas, mais Deutéronome chapitre 21, verset 8. C'est donc quand il y a le fait d'être pardonné, quand Dieu couvre, entre guillemets, nos péchés, c'est une nouvelle situation. Nous tournons la page. Et c'est un maître mot que nous trouvons à travers Lévitique chapitre 16. Nous le trouvons, par exemple, dans Lévitique, chapitre 16, et le verset 6. Lévitique, chapitre 16, et le verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire, il fera l'expiation, kafar, pour lui et pour sa maison. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation, toujours le même mot, toujours kafar, couvrir. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il faut de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Verset 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation, kafar, dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Donc, on voit ce mot qui est souligné, qui revient à maintes reprises, verset 30, par exemple. Car en ce jour, on fera l'expiation, toujours le même mot, pour vous, afin de vous purifier. Donc, c'est un jour, les expiations, on voit bien que la fête des expiations, ce mot est souligné, où Dieu couvre nos péchés. Dieu pardonne nos péchés. Verset 33. On voit bien la raison pour laquelle l'expiation existe. Lévitique chapitre 16 et le verset 33. Lévitique chapitre 16 et le verset 33. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera l'expiation pour le sacrificateur et pour tout le peuple de l'assemblée. Et ce sera pour vous, verset 34, une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël. Pourquoi? À cause de leur péché. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'était donc à cause de leur péché. Et rien n'a changé. Nous avons toujours besoin du sacrifice du Christ à cause de nos péchés. Et les expiations nous rappellent le plan de Dieu, comme quoi Dieu a prévu restaurer une relation correcte entre les êtres humains et lui-même. Une relation de nouveau, une relation d'intimité, de proximité, comme ça existait auparavant. Nous sommes donc probablement assez familiers avec Kaphar. On est peut-être un peu moins familier avec un autre mot que nous voyons à travers Lévitique chapitre 16. Et ces deux mots sont centraux à ce jour. L'expiation, le fait que Dieu couvre nos péchés, Dieu pardonne. Et cet autre mot, la racine de ce mot veut dire rater. La racine de ce mot veut dire rater. Rater le cible, par exemple. Et encore, pour rater un cible, il faut viser. Il faut vouloir. Il faut essayer. On rate, mais on rate en essayant. Et bien sûr, quand nous ratons le cible, ça va avec le péché, quand nous péchons, et quand nous ratons le cible parce que nous avons essayé, parce que nous avons visé, mais que nous avons raté, il reste, bien sûr, c'est ce que Dieu veut, il y a le repentir, et nous pouvons revenir à Dieu quand nous ratons le cible. Et nous avons besoin, bien sûr, du repentir face au péché. Ce que j'ai voulu faire pour souligner ce deuxième mot, comme j'ai dit, la racine de ce mot, ça veut dire rater, c'est de le traduire, enfin pas le traduire, mais de vous lire le Lévitique chapitre 16, quelques versets, dans l'Ostewald. De vous lire les quelques versets dans l'Ostewald parce que c'est plus clair dans cette traduction en ce qui concerne ces quelques versets. Lévitique chapitre 16 et le verset 3. Voici de quelle manière Aaron entre dans le sanctuaire, prendre un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Donc effectivement, on pourrait confondre expiation ici, on pourrait imaginer que c'est Kaphar, mais ce n'est pas Kaphar. C'est un sacrifice, comme c'est marqué dans l'Ostewald, un sacrifice pour le péché. Donc, ça a à voir avec péché. Nous avons un mot qui est souligné à travers Lévitique 16. C'est expiation, couvrir. Mais nous avons également un deuxième mot, couvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a péché. Et ça, c'est donc le deuxième mot qui est souligné et qui est traduit dans l'Ostewald, la version Ostewald, par sacrifice pour le péché. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation. Et là, de nouveau, donc, sacrifice pour le péché dans l'Ostewald. Et on traverse donc Lévitique chapitre 16 et ce mot-là, comme j'ai dit, de nouveau souligné, le verset 16. Le verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation, Kaphar, pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Là, évidemment, c'est plus clair. Par lesquelles ils ont péché. Et dans l'Ostewald, dans le verset 16, Il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion dans tout leur péché. Dans tout leur péché. Verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation, kafar, pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc, ce deuxième mot, parce qu'on a raté. Parce que nous avons raté le cible, parce que les enfants d'Israël avaient raté le cible, et parce qu'ils avaient péché, Dieu a également prévu, grâce au sacrifice du Christ, qu'on pourrait faire l'expiation pour nous, comme c'est marqué dans le verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Lévitique, chapitre 4, et le verset 22. Il s'agit ici des offrandes qui étaient données à l'époque. Lévitique, chapitre 4, et le verset 22. Si c'est un chef qui a péché, en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable et qui viennent découvrir le péché qu'il a commis, il offre un sacrifice, en sacrifice un bouc, un mâle, sans défaut. La même chose pour tout le monde. Verset 27. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qui viennent à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Involontairement. Et nous ne pouvons pécher involontairement parce que nous avons visé, mais nous avons raté la cible. Et le Christ a payé pour nos péchés. Nous venons de voir donc les deux mots qui ont à voir avec la signification profonde de ce jour des expiations. Et ici, nous regardons Daniel chapitre 9, verset 24. Ceci complète, si je puis dire, le tableau. Nous retrouvons la même formule, mais ça va plus loin. Dans Daniel chapitre 9 et le verset 24. Je saute ici un petit peu au milieu d'un contexte. C'est une prophétie, le contexte du Messie. Et dans le verset 24, donc, nous lisons ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour expier l'iniquité. Pour expier l'iniquité, kafar, et pour mettre fin au péché, c'est l'autre mot qui veut dire, donc la racine qui veut dire rater. Mettre fin au péché pour expier l'iniquité. Et en anglais, ça peut être traduit par réconciliation. Réconciliation. Le rabbinat parle d'effacer l'iniquité. Et nous, nous sommes enclins à faire le mal. Paul dit, moi je suis charnel, Paul a dit, je suis charnel, vendu au péché. Et c'est aussi notre cas, parce que nous avons notre nature humaine qui nous tire constamment vers le bas, et c'est une lutte. Mais le but de Dieu, c'est que nous puissions être réconciliés avec lui. Et continuons donc, puisqu'il y a péché, mais il y a en plus le fait d'expier l'iniquité grâce au sacrifice du Christ et qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Mais la Bible parle ici dans Daniel chapitre 9, verset 24, mentionne quelque chose de supplémentaire. Je relis le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Et, on va un pas plus loin, et ça c'est dans le contexte, tout ceci c'est dans le contexte du plan de Dieu, et amener la justice éternelle pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Pour ce que la Bible appelle amener la justice éternelle. Parce que c'est la justice de Dieu, c'est le plan de Dieu et ce sera son fin éternel. Dieu veut que l'homme puisse rester en harmonie avec lui, être un avec lui et pour l'éternité. La justice de Dieu est parfaite. La justice de Dieu est parfaite. Nous, de notre côté, nous avons notre responsabilité. Nous sommes coupables. Nous sommes tous coupables parce que nous avons péché, parce que nous avons transgressé cette loi de Dieu, cette loi parfaite. Dieu pardonne. Dieu pardonne quand nous nous repentons. Première boucle. Mais Satan aussi est responsable. Satan est l'instigateur du péché. C'est Satan qui a péché le premier. Et la fête des expiations impute à Satan ses responsabilités, ses agissements. Deuxième boucle. Satan, dans la Bible, Satan a un certain nombre de noms qui correspondent à son caractère. Satan est appelé le père de mensonge. Satan est appelé l'ennemi, le malin, le séducteur, tout ceci à voir donc avec sa façon d'agir ou sa façon d'être, le meurtrier, le tentateur, l'accusateur, c'est ce qui nous fait devant le trône de Dieu en ce qui nous concerne, quand nous nous écartons, quand nous ratons la cible, le dragon, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Et puis Satan est appelé également un destructeur. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Apocalypse chapitre 9 et le verset 11. Il s'agit d'une prophétie ici pour l'avenir. Là aussi, je saute au milieu d'un contexte. Apocalypse chapitre 9, verset 11. « Elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » Et vous avez peut-être une annotation en bas de votre Bible. « Abaddon, qui signifie destruction, et Apollyon, mot qui signifie destructeur. Satan est un destructeur. Et il faut que le destructeur soit mis hors d'état de nuire. Satan cherche à détruire le plan de Dieu, façon de parler. Il cherche à faire échouer le plan de Dieu. Satan cherche à détruire les hommes et leur potentiel. Il ne veut pas qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Donc, le résultat de tout ceci, puisqu'il y avait les deux boucs, et puisque Aaron confessait sur le bouc qui représentait Azazel, puisqu'il confessait sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, puisqu'il y avait donc les deux boucs, le résultat, verset 30, nous lisons le résultat dans le verset 30, Lévitique 16, verset 30, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Tous vos péchés devant l'Éternel. Il y avait, bien sûr, une énorme différence entre ce que les deux boucs représentaient. Le Christ a donné sa vie en tant que sacrifice volontaire. Mais l'autre bouc qui est resté vivant, Satan, qui représente Satan, Satan, bien sûr, sera lié. Il sera contraint et forcé. C'est tout à fait le contraire du sacrifice du Christ qui était volontaire. Satan sera contraint et forcé. Il sera lié. Et donc, tout ceci, ils étaient, les enfants d'Israël étaient pardonnés de tous leurs péchés. L'humanité étant coupable, l'humanité a encouru une pénalité. Et c'est pourquoi il nous faut un sauveur. Notre pénalité peut être enlevée si nous nous repentons. De l'autre côté, Satan est coupable et il faut qu'il porte sa culpabilité. Et la pénalité, bien sûr, ne sera pas enlevée. Il faut qu'il porte la pénalité. Nous ne pouvons être pardonnés et notre pénalité, dans ce sens-là, sur un sens spirituel, peut être enlevée à travers le repentir. Mais la pénalité de Satan reste. Il faut qu'il porte sa propre responsabilité, sa propre pénalité. Parce qu'il a sa part dans la séduction de l'homme, de diriger l'homme dans le mauvais chemin. Lévitique chapitre 16, le verset 21. C'est ce que nous venons de lire. Il y a une identification ici, puisque Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et qui confesse sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Il y a une identification et Satan, donc, a sa responsabilité. Le désir de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme soit un avec Dieu. Que Dieu soit son Dieu. Le désir de Satan, c'est de séparer l'homme de Dieu. Que l'homme n'a pas ou n'a plus cette relation d'intimité, de proximité avec son Créateur. Dieu veut conduire à la gloire beaucoup de fils et Satan essaie de faire échouer le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il y a donc le jour des expiations. Il faut que l'influence de Satan soit enlevée pour qu'il n'y ait plus de séparation du tout. Pas uniquement est-ce que l'homme doit être pardonné, il faut en plus que l'influence de Satan soit enlevée complètement. Pour que le Satan ne pourrait plus nuire aux êtres humains. Pour que Satan n'ait aucune emprise sur l'être humain. Aucun ascendant pour qu'il ne puisse plus séduire les êtres humains. Lévitique chapitre 16, verset 21. Lévitique chapitre 16, le verset 21. Nous avons lu. Mais reprenons la fin du verset 21. Une fois donc a posé ses deux mains sur la tête du bouc vivant, à la fin du verset 21, il le mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert, là où il n'y a plus aucun être humain. Satan est éloigné complètement pour qu'il n'influence plus les êtres humains, pour qu'il n'y ait plus de pouvoir sur les êtres humains, pour qu'il n'y ait plus de risque, entre guillemets, pour qu'il ne puisse plus émettre sur les ondes. Et à l'avenir, quand Satan est éloigné, il n'y aura plus les tentations, les mauvaises pensées, que nous pourrions avoir, que nous pourrons avoir, qui sont insufflés par Satan ou par ses démons. En attendant l'accomplissement de ce jour, quand Satan n'aura plus d'influence sur l'humanité, Dieu veut que nous vivions son plan dans nos vies personnelles. Dieu veut que nous nous approchions de lui pour que Satan nous influence de moins en moins, que nous soyons de plus en plus proches de Dieu et que Satan, donc, par voie des conséquences, nous influence de moins en moins. Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques, chapitre 4, et le verset 6. Le contexte ici est intéressant parce que c'est un contexte où il est question d'humilité. Jacques chapitre 4, verset 6. Mais on va commencer à lire à partir du verset 4, si vous voulez bien, parce que par rapport au sermon, ça ajoute quelque chose. Verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, donc ennemi de Dieu, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Romains. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain, verset 5, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On s'humilie devant Dieu, on se rapproche de Dieu, et Dieu nous fait grâce. Verset 7. C'est pourquoi, pour ainsi dire, verset 7, donc, soumettez-vous donc à Dieu, se rapprochez de Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Savoir avec l'humilité, savoir avec le fait de se rapprocher de Dieu, savoir avec la fête des expiations. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, évidemment. S'il y a péché, il s'agit de sortir du péché. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Rappelez que le mot purification, nous avons trouvé dans Lévitique, chapitre 16. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. De nouveau, on revient sur l'humilité, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Nous nous humilions pour être proches de Dieu. Et nous pouvons, en jeûnant aujourd'hui, anticiper l'avenir, anticiper le plan de Dieu et avoir un aperçu de comment ce sera quand le monde ne sera plus sous l'emprise de Satan, ne sera plus influencé par Satan. Dieu nous donne la méthode à nous d'avoir et de développer son caractère, de vouloir constamment nous rapprocher de Dieu. C'est Dieu qui nous donnera la force pour résister à Satan. Aujourd'hui donc, nous jeûnons pour nous approcher de Dieu et inévitablement, si nous le faisons, Satan s'éloigne de nous. C'est une base communicante. Nous pouvons avoir un aperçu de l'harmonie qui existait dans le jardin d'Éden. Nous pouvons avoir une paix d'esprit parce que nous nous rapprochons de Dieu. Pour être un avec Dieu, nous avons besoin de reconnaître, de résister et de vaincre les influences de Satan. Revenons, encore une fois, si vous voulez bien, à Lévitique chapitre 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Le langage ici est bien différent de ce que nous voyons utilisé à propos du premier bouc. Verset 9. Aaron fait approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, il offrira un sacrifice d'expiation. Les choses sont vraiment différentes en ce qui concerne Satan. Si nous regardons la séquence des événements, nous pouvons constater que la fête des expiations démontre comment Dieu va apporter la réconciliation. Comment Dieu va apporter la réconciliation pour que le monde soit un avec lui, pour que Dieu soit le Dieu des êtres humains, de l'humanité. Nous regardons le résultat de cette réconciliation quand nous regardons le millénium. Le millénium brosse le tableau, si je puis dire, de ce qui va se passer une fois que cette réconciliation a lieu. C'est le résultat. Satan sera lié. C'est prophétique. Nous sommes familiers avec Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, que nous avons déjà lu. Mais il y a une suite que nous trouvons à partir du verset 7, quand Satan sera lâché temporairement et brièvement. Verset 7. Apocalypse chapitre 20 et le verset 7. Quand les 1000 ans sont accomplis, Satan sort relâché de sa prison, lui qui est lié, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Satan ne changera pas. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, le nombre est comme le sable de la mer. Et il réussit. Verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans le temps de feu et de souffle. Et Satan ne pourrait plus nuire aux êtres humains. Il faut donc que Satan et ses démons soient enlevés pour qu'il y ait l'unité, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'harmonie, et pour que l'homme puisse être réconcilié avec, pardonné et réconcilié avec son Dieu, il faut aussi que Satan et ses démons soient mis hors d'état de nuire. La fête d'expiation, faut pas oublier, c'est une fête. C'est un vrai jour de fête pour nous, parce qu'on sait que c'est un jour qui a à voir avec une délivrance complète du péché. Et nous vivons ce jour, nous jeûnons, et nous avons une petite idée, quand nous vivons ce jour spirituellement, ce que l'avenir sera, quand Satan sera enfin enchaîné, et quand les êtres humains sont et peuvent devenir un avec Dieu.